Il est 8h. Le journal, Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. Un été politique plutôt calme, une cote de popularité en hausse, mais c'est une rentrée à haut risque pour Emmanuel Macron. Le président veut relancer les réformes et quitte à faire des concessions sur la forme. 2022 en ligne de mire. La rentrée sociale, vous l'évoquerez aussi avec votre invité à 8h20, Pierre.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Vous pourrez l'interroger vers 8h35. Le standard est à votre disposition. 01 45 24 7000.
Une explosion de joie à bord du navire humanitaire Open Arms. Migrants et sauveteurs qui s'embrassent. La justice italienne les a autorisés à débarquer hier soir à Lampedusa. Un nouveau revers pour l'ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. À quoi sert le G7? On sait déjà qu'il n'y aura pas de déclaration commune et ce sont des dirigeants affaiblis et divisés qui vont se retrouver à Biarritz samedi. Et après Biarritz, Donald Trump n'ira pas au Danemark. L'idée d'acheter le Groenland pour le président américain, c'était du sérieux et il est plutôt fâché. Face aux agressions, les pompiers essayent à leur tour les caméras piétons pour filmer les interventions délicates. L'expérimentation démarre en septembre dans le Val-d'Oise. Des pirates informatiques ont réussi à modifier plus de 2000 déclarations d'impôts. Problème réparé, mais question sur la sécurité du site des impôts. Les conséquences de la sécheresse, pas beaucoup d'olives à récolter sur la Côte d'Azur. Et puis en musique, le retour de Ride, un groupe phare de la pop britannique des années 90.
France Inter.
Ce doit être l'acte 2 du quinquennat. Le Conseil des ministres se réunit ce matin après 4 semaines de vacances. Emmanuel Macron veut lancer une deuxième grande phase de réforme délicate. Après une année marquée par la contestation des Gilets jaunes, le président de la République sait qu'il va devoir convaincre sur le fond comme sur la forme, Laurence Perron.
Objectif, mise en musique de l'acte 2. Alors oui, il y a eu les travaux d'Hercule du début du quinquennat, les ordonnances travail, la réforme de l'assurance chômage, la loi asile et immigration, la ratification du CETA, toute disruption assumée, ainsi que leur cortège d'impopularité. Mais place désormais à une phase beaucoup plus politique, dont Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse du 25 avril, a tracé le cap ainsi.
Redonner une espérance de progrès à chacun, en demandant à chacun le meilleur de lui-même.
Les consignes ont été données au ministre, ne rien lâcher sur le fond, mais la jouer plus velours. La réforme des retraites sera le premier exercice de la méthode et le Premier ministre a rendez-vous début septembre avec les partenaires sociaux. Sur la PMA pour toutes, pédagogie intimée à tous. Impossible pour le président de ne pas honorer cet engagement de campagne qui lui a valu les voix de nombre d'électeurs de gauche. Et ce n'est pas un hasard si en pleine discussion sur le projet, fin septembre à l'Assemblée nationale, il a été inscrit un débat sur la politique migratoire qui devrait lui donner des gages à droite. Ce fameux « en même temps » qui sert toujours de viatique au président. Un président qui, on l'a vu avec les tractations autour des investitures pour les municipales, met les mains dans la marmite politique. L'acte 2, c'est aussi clairement un cap sur 2022.
Après Vladimir Poutine à Brégançon, c'est au château de Chantilly, près de Paris, qu'Emmanuel Macron recevra demain le Premier ministre Narendra Modi. Une manière d'intégrer l'Inde aux discussions du G7. L'Inde est aussi invitée à une partie des discussions de Biarritz, notamment sur le climat, alors que le pays est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le groupe des 7, lui, n'a sans doute jamais été aussi fragile. Les dirigeants sont presque tous dans la tourmente et les désaccords sont nombreux, Franck Madvon.
Boris Johnson est sans doute le plus attendu. Il n'est en fonction que depuis un mois. Il martèle que le Royaume-Uni quittera l'UE quoi qu'il advienne le 31 octobre, en dépit des nombreuses mises en garde contre un Brexit dur. Johnson doit voir Merkel et Macron aujourd'hui et demain, mais prend clairement ses distances avec les Européens pour, peut-être, se rapprocher de Donald Trump. Pas sûr que ce soit un bon calcul, l'Américain est déjà en campagne. A priori, il ne se rend pas à Biarritz pour s'y faire des amis, lui qui a refusé l'an dernier de signer la déclaration finale du G7. L'Italien Giuseppe Conte a annoncé sa démission hier. Angela Merkel a encore 2 ans à tenir, mais a rarement été aussi affaiblie. Le Canadien Justin Trudeau est en mauvaise posture à 2 mois des élections. Seul le Japonais Shinzo Abe conserve une popularité relativement intact. Emmanuel Macron aura le plus grand mal à faire parler ses dirigeants d'une seule voix sur les grands dossiers du moment, l'Iran, les tensions commerciales, la course aux armements, les positions divergent, d'où cette question qui surgit régulièrement À quoi sert encore le G7 ?
Et Donald Trump estime en tout cas de son côté que le G7 devrait redevenir G8 et réintégrer la Russie. Elle est exclue depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'Italie n'a donc plus de gouvernement. Le Premier ministre Giuseppe Conte, proche du mouvement anti-système 5 étoiles, a démissionné hier. Le président Mattarella entame aujourd'hui les consultations pour tenter de former une nouvelle coalition. Et alors que cette crise politique a été déclenchée notamment par le refus de Matteo Salvini d'accueillir des migrants, la justice a autorisé hier soir le navire humanitaire Open Arms à débarquer à Lampedusa. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Sarah.
C'est évidemment un soulagement pour les sauveteurs et un revers pour l'ancien ministre de l'Intérieur, l'homme fort de la Ligue.
Oui, alors vous le savez Sarah, la lutte contre l'immigration clandestine, comme il l'appelle lui-même, c'est le cheval de bataille politique numéro un de Matteo Salvini. Un cheval de bataille qui flirte assez souvent avec la xénophobie pure et simple, mais qui lui a valu quelques succès le dernier. Et en date, c'est le solide 33% d'Italiens qui ont voté pour sa Ligue aux européennes du printemps dernier. Concernant les migrants recueillis en mer, Salvini a toujours plaidé pour une répartition de leur accueil entre les pays de l'Union européenne, refusant que les ports italiens soient les seuls susceptibles d'accueillir ces réfugiés. Mais dans le cas de l'Open Arms, il a probablement poussé le bouchon un peu trop loin, refusant tout débarquement en Italie des 147 réfugiés recueillis par le navire espagnol, alors même que 5 autres pays de l'Union s'étaient accordés pour les accueillir. Les passagers de l'Open Arms n'auraient fait que transiter quelques heures par le sol italien. Et il a fallu hier soir l'injonction d'un procureur italien ordonnant le débarquement des personnes sur le port de Lampedusa pour qu'ils puissent effectivement débarquer. D'ailleurs, le procureur d'Agrigente a enfoncé le clou contre Salvini, puisqu'il a aussi ouvert une enquête contre X pour séquestration de personnes, omission et refus d'actes officiels. Matteo Salvini, qui s'est immédiatement senti visé, a répondu cette nuit sur ses comptes Facebook et Twitter que, je le cite, un énième procès ne lui faisait pas peur.
Merci Eric Biegala. Après le G7, Donald Trump devait revenir en Europe dans 2 semaines avec un passage au Danemark, visite annulée hier. Pourquoi ? Parce que le Danemark ne veut pas vendre le Groenland, Grégory Phillips.
Avant-hier soir, dans un message qu'on va qualifier d'assez étonnant, Donald Trump avait publié sur son compte Twitter un photomontage représentant une petite cité portuaire du Groenland avec ses traditionnelles maisons colorées et au milieu une immense Trump Tower dorée. Commentaire alors du président, je promets de ne pas faire ça au Groenland. Hier soir, nouveau message sur Twitter sur un ton beaucoup plus agacé. Après les propos de la première ministre danoise sur mon projet de rachat, écrit Trump, je reporte notre rencontre. En fait, la Maison Blanche précise un peu plus tard que c'est toute la visite qui est annulée. Mette Frederiksen, la chef du gouvernement danois, avait qualifié d'absurde l'idée du président américain, clamant que les 56 000 habitants de ce gigantesque territoire n'étaient pas à vendre. Colère donc de Trump, qui voit dans ces terres glacées un territoire stratégique et qui se souvient sans doute que, après la Seconde Guerre mondiale, le président Truman avait lui aussi proposé de racheter le Groenland pour 100 millions de dollars à l'époque, mais déjà les Danois avaient refusé. Washington, Grégory Phillips, France 1.
8h08, le journal. Sarah Guibaudot, retour en France. Sarah, les pompiers vont tester les caméras pour prévenir les agressions.
Ces agressions qui progressent chaque année de 10 à 15% depuis 10 ans, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et alors que les pompiers sont en grève symbolique depuis presque 2 mois pour demander de meilleures conditions de travail, le gouvernement vient de les autoriser à tester les caméras piétons, comme c'est déjà prévu pour les policiers. Dans le Val d'Oise, où s'est rendu notre reporter Yann Gallic, l'expérimentation démarre en septembre.
Les sapeurs-pompiers du Val d'Oise ont déjà déclaré 43 agressions depuis le début de l'année. Des insultes, des menaces de mort, des jets de pierre et parfois des attaques physiques, explique Jérôme François, soldat du feu dans le département depuis presque 30 ans. Il est également secrétaire général du syndicat UNSA-pompiers.
De plus en plus, on intervient chez des gens qui se comportent en consommateurs et qui vont trouver que les pompiers ont été un petit peu trop longs à arriver sur place, qu'ils ne vont pas accepter la prise en charge. Et puis parfois, l'alcool aidant, on va en venir aux insultes. Voire aux mains.
Dans le Val d'Oise, 9 casernes recevront bientôt des caméras piétons que les pompiers pourront utiliser lors de leurs interventions. Le lieutenant-colonel Jean-Philippe Lemeur est en charge de ce nouveau dispositif.
L'objet est vraiment de faire de la prévention avant tout, de faire baisser les tensions.
Et en cas d'agression, ces images, elles peuvent servir à quoi ?
Ces images nous serviront de preuve, elles seront communiquées à l'autorité judiciaire s'il y a un dépôt de plainte, de retrouver l'auteur de cette agression.
Les images enregistrées seront conservées pendant 6 mois. Malgré quelques réserves, les pompiers comme Jérôme François se disent prêts à tester ce nouvel équipement.
Peut-être que la caméra pourrait être vécue comme un intrus entre le sapeur-pompier et les victimes. Après, ça reste malgré tout un outil qui peut effectivement être utile dans certains types d'agressions envers les sapeurs-pompiers.
Les pompiers du Val-d'Oise expérimenteront ces petites caméras jusqu'en février 2022.
Yann Gallic, l'homme arrêté dimanche près du lac d'Annecy avec le corps de sa compagne dans le coffre de sa voiture, a été mis en examen hier soir pour assassinat et écroué. Pendant sa garde à vue, le suspect de 45 ans n'a donné aucune explication. C'est le 93e meurtre de femme par son conjoint depuis le début de l'année. À quoi jouaient les pirates informatiques qui ont demandé des crédits d'impôt pour quelques 2000 contribuables? On ne sait pas vraiment. Les anomalies ont été détectées fin juin et les contribuables prévenus. Mais l'affaire révélée ce matin par le Canard enchaîné pose la question de la sécurité informatique de nos données fiscales, Fabien Cazot.
C'est un nombre inhabituel de demandes émanant de contribuables qui souhaitaient qu'on leur renvoie leurs identifiants sur le site impots.gouv.fr qui a alerté les informaticiens de l'administration fiscale. Pour obtenir ces renseignements, il suffit d'avoir une adresse mail enregistrée, c'est censé valider l'authenticité de la demande, sauf que dans le cas d'une boîte mail piratée, c'est le pirate qui se cache derrière le contribuable. Selon la porte-parole du syndicat solidaire finances publiques, Anne Guyot-Velk, cette attaque pose de lourdes questions sur la sécurité informatique de nos données fiscales.
On est à l'heure de la dématérialisation totale et de l'accès via le numérique. Effectivement, il faut qu'il y ait des moyens à la hauteur de l'ambition numérique que veut se donner ce gouvernement. Donc ça nécessite à la fois des moyens budgétaires pour renforcer l'ensemble des systèmes et aussi des moyens humains pour qu'on ait des informaticiens en nombre conséquent pour assurer ces alertes.
Heureusement, soufflent les agents de l'administration fiscale, ce piratage n'a pas eu de conséquences graves. Pas d'argent détourné, ni au préjudice des contribuables, ni à celui de l'État. Comme si les pirates avaient simplement voulu montrer à quel point il leur était facile de pénétrer le système. Bercy, de son côté, a porté plainte.
6 ans après le déraillement de Brétigny qui avait fait 7 morts et 5 ans après la collision entre un TGV et un TER à Danguin, l'état du réseau SNCF est toujours aussi inquiétant, selon un rapport révélé ce matin par Le Parisien. Des inspections sur la zone atlantique ont permis de découvrir encore des boulons desserrés ou des fils électriques dénudés par des rongeurs et la maintenance laisse toujours à désirer. 2019, on l'a dit, est un été record. On verra jusqu'à quand 2 canicules, des records de chaleur et la sécheresse qui éprouve les agriculteurs. Si les céréaliers s'en sortent bien et si on attend de bons millésimes pour le vin dans le Bordelais et le Val-de-Loire, les éleveurs ne savent plus où trouver du fourrage. Beaucoup de fruits ont brûlé sur les arbres et les olives, eh bien dans le champ visité par Fabien Fourel dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a pas beaucoup.
Depuis plusieurs jours, Pierre Poussou, le patron des lieux, arpente les allées. D'une main désespérée, il touche ses oliviers assoiffés.
Il lutte contre cette chaleur terrible. Ils vont chercher l'humidité dans le sol. Pour moi, c'est un temps malsain qu'on a eu depuis 2-3 mois.
2 épisodes de canicule, 40 degrés allègrement dépassés durant plusieurs jours. Bilan.
Sur les 170 arbres, on a 40 arbres qui sont relativement chargés, mais on a une estimation de 800 à 1000 kilos d'olives, pas plus. L'année dernière, on a fait 6 tonnes et demie. C'est évident que c'est une grosse perte.
Et encore, les épisodes de grêle de septembre ne sont pas passés.
Regardez les orages qu'il y a à travers la France. Pour le moment, on a échappé aux orages. Mais ça va arriver. Hein. Et ici, c'est diluvien. Hein. Quand il y a des grosses chute d'eau aussi, ça fait aussi tomber les olives, etc. On s'attend au pire.
Le temps n'en fait qu'à sa tête et c'est de pire en pire, constate Philippe, qui travaille aussi dans l'oliveraie.
Il y a peut-être 10-20 ans, il y avait peut-être une régularité. Mais effectivement, là, depuis quelques années, il y a des successions d'événements climatiques qui fait que bon, c'est vraiment un coup sur deux. Quoi. C'est très difficile à prévoir.
Dans 2 mois viendra l'heure de la maigre récolte.
Ça serait un petit peu décourageant.
Pierre a déjà estimé, il aura perdu cette année près de 10 000 euros.
Fabien Fourel de France Bleu Azur. Manchester United condamne catégoriquement, je cite, les insultes racistes proférées à l'encontre de Paul Pogba. Le footballeur français a raté un pénalty et s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. C'est le 3e joueur du championnat anglais victime d'injures racistes la semaine dernière. Il s'était fait connaître dans le sillage d'Oasis dans les années 90, puis les rockers anglais de Ride avaient disparu. Les revoici avec un nouvel album intitulé This is not a safe place, qui devrait ravir les amateurs du genre, Mathieu Culeron.
Pendant 20 ans, le groupe Rai n'a pas donné de nouvelles. Après être devenu une référence mondiale du mouvement shoegaze dans les années 90 et publié 3 albums cultes, le groupe d'Oxford se sépare en 1995. Le chanteur-guitariste Andy Bell part rejoindre le groupe Oasis. Le groupe finalement se réunit pour une nouvelle tournée et un nouveau disque voit le jour il y a 2 ans. Pour Andy, faire de la musique a toujours été une thérapie.
L'écriture des chansons est un moyen parfait de résoudre les problèmes de ta vie. Moi, je l'utilise comme un outil thérapeutique pour supporter l'époque. Et maintenant, je me sens bien.
Ce deuxième disque post-reformation est un coup de maître. La simplicité et l'évidence est au rendez-vous. Les chansons sont aériennes et portent en elles toute la grandeur de ce qui a fait Ride.
Sur ce disque, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité. Je suis très fier du disque, mais si je devais retenir un titre, je choisirais Repetitions.
This is not a safe place est un album qui aborde avec finesse les angoisses du moment et accessoirement signe le grand retour d'un des groupes les plus importants d'Angleterre.
Mathieu Culeron, un son qui nous replonge 20 ans en arrière, ces mots-là aussi.
La matrice est un système, Néo, et ce système est notre ennemi.
Keanu Reeves va reprendre le rôle de Neo pour un 4e volet de la série Matrix avec Carrie Anne Moss alias Trinity et à la réalisation non plus d'un des frères Wachowski mais désormais l'une des sœurs, Lana Wachowski.
C'était le journal de Sarah Guibaudeau, les couleurs du ciel, la météo aujourd'hui. Marie-Pierre Planchon est avec nous. Marie-Pierre,
oui,
encore frais ce matin
et
sur
oui,
le nord.
Oui, les nuits sont longues, Pierre, et donc sous un ciel dégagé, le mercure descend assez bas comme aujourd'hui, par exemple en Seine-Maritime à Cuisien-Fiacre, où il n'a pas fait plus de 4 degrés, comme dans l'Oise, mais aussi dans la Manche. Dans la Creuse ou en Haute-Loire, vous avez 6, 9 à Lille, 13 à Paris. En revanche, c'est le grand écart avec le sud. On relève déjà 23 à Nice et à Alice, 3 en Corse, comme à Perpignan. Côté ciel ce matin, on a quelques brumes matinales après des côtes de la Manche, mais aussi vers les côtes varoises et les bourgeonnements sur les Alpes. Le Mistral et la Tramontane se lèvent et partout ailleurs, votre matinée sera ensoleillée.
Cet après-midi, Marie-Pierre, retour des averses orageuses sur les Alpes.
Oui, car les bourgeonnements sont de plus en plus nombreux et vont déclencher cet après-midi donc ces averses orageuses jusqu'au coup de tonnerre. Sur l'est de la Corse également, vous aurez droit à un temps très instable. Et puis sur la moitié sud, le ciel va rester voilé, mais sans enlever vraiment l'impression de beau temps. Et puis sur les autres régions, le soleil sera de retour. Il fera un peu plus chaud sur la moitié nord. On attend 21 à Honfleur, 23 à Lille, 23 à Cherbourg et au Tréport. Comptez 24 à Paris, 25 à Metz, 26 à Nantes et Bourges. Hier à Lyon, il a fait 17. Aujourd'hui, vous aurez 25, comme à La Rochelle et à Clermont-Ferrand. 28 à Saint-Tropez, jusqu'à 29 à Biscarrosse, 31 à Nîmes et 32 à Montpellier. Et la hausse pire va continuer car l'anticyclone des Açores est en train de gagner l'Allemagne et va nous préserver pour un bon moment du temps orageux qui est repoussé vers l'Ukraine et la Pologne.
La météo, Marie-Pierre Planchon.